Bienvenue dans ce deuxième discours. J'ai, en marchant et dans mes réflexions, sont venus plusieurs thèmes que j'aimerais aborder. Et en lien, pour la plupart, avec qui ont été inspirés par des choses qui ont été dites dans le cercle de partage. Et voilà, voilà, on va voir ensemble vers où va ce discours, parce que ces thèmes sont assez éparpillés. Et en fait, je partageais dans le cercle combien c'était intéressant pour moi, en fait, d'essayer de formuler ma pensée, mon expérience. En fait, ce que je fais, c'est d'essayer de rendre visible ma mythologie intérieure, ma cartographie intérieure, ma manière de voir. Et j'essaye de la rendre déjà cohérente pour moi-même, mais aussi compréhensible à d'autres. Et ça crée une sacrée entreprise, parce que c'est comme une grande fresque, en fait, pleine de... pleines de compréhension qui ne sont pas forcément toutes reliées encore, hein. Le but c'est de les relier à un moment, qu'elles ne fassent plus qu'un tout. C'est une fresque aussi qui se passe sur trois dimensions, on pourrait la voir plutôt qu'un tableau en deux dimensions. Et donc c'est difficile parfois de dire voilà, j'aimerais bien, j'ai envie de parler de ça, mais pour pouvoir parler de ça, il y a présupposé que ça soit déjà compris dans ma manière de penser. Et c'est là que c'est difficile. Et du coup, je vais peut-être parler de quelque chose qui n'est pas accessible parce que certains n'ont pas entendu une autre partie de ma fresque sur laquelle ça s'appuie, en fait, cette construction. Et c'est pas du tout grave, mais c'est juste pour essayer de rendre compréhensible, en fait, l'entreprise. Et comme je le disais, j'utilisais le mot mythologie ou cosmologie, peut-être est plus juste, c'est-à-dire ma philosophie, en fait, de ma compréhension du monde, que j'essaye du monde et de moi-même, que j'essaye de rendre compréhensible, parce que je pense que dedans, il y a des choses qui sont utiles pour assouplir les esprits. Et parce que aussi, je pense que dans cette manière de voir que j'essaie de transmettre, il y a beaucoup de questions qui sont intéressantes, des questionnements en fait. Mais ce ne sont que des manières de voir. Rien n'a valeur de vérité ultime. Mais pas parce que je suis complètement à côté de la plaque. Mais plutôt parce qu'il n'y a pas une seule manière de voir qui est une vérité ultime. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit appréhender. C'est qu'on ne va jamais avoir une manière de comprendre et de symboliser la vie en disant, ben voilà, c'est ça en fait, la vie c'est ça, ou c'est comme ça. Non, on n'aura jamais cette stabilité et cette solidité de compréhension. Tout ce qu'on peut faire, c'est comme font les scientifiques, c'est faire des modèles qui fonctionnent. C'est ça, en fait, qu'on fait. C'est des modèles qui fonctionnent. Hein, le modèle de Newton était un modèle qui fonctionnait très, très bien et qui, du coup, permettait de prévoir où on allait trouver une planète alors qu'on ne la voyait pas encore et peut-être 100 ans après, on la trouvait. De prévoir la trajectoire d'un boulet de faire tout un calcul qui nous permettait de prévoir ce qui va se passer. Mais ça n'explique rien. C'est juste un modèle qui fonctionne. Et puis après ça, les modèles se succèdent. Einstein a amené un autre modèle, et puis là est arrivée la physique quantique qui amène encore un autre modèle. Et chaque modèle est une révolution immense, en fait, scientifiquement. Nous, on suit ça un peu de loin. De toute façon, c'est trop compliqué. Beaucoup de scientifiques suivent aussi ça de loin parce qu'ils ne se posent pas les questions philosophiques qui vont avec les nouveaux modèles. Ils cherchent des applications qui sont maintenant accessibles grâce aux nouveaux modèles. Tout ça pour dire, donc, c'est juste des modèles de compréhension. C'est pas, y a nulle part de vérité ultime, mais dans aucune philosophie, dans aucune tradition spirituelle ou religieuse. C'est chaque fois des modèles, et on reconnaît en fait la valeur d'un modèle à son efficacité. C'est-à-dire, si un modèle religieux, philosophique ou autre, spirituel, est juste, ça veut dire qu'en fait, il est juste parce qu'il fonctionne bien, pas parce qu'il est une image exacte de la réalité. Il est juste parce qu'il rend les humains plus humains, il rend les humains plus ouverts, plus aimants, mieux, plus en amour avec eux-mêmes, plus en harmonie avec ceux qui les entourent. Ça, c'est un modèle qui fonctionne. Il y en a plein, en fait, des modèles comme ça. Et vu comme ça, ça enlève toute possibilité de guerre et de bras de fer entre différentes traditions qui disent « Non, c'est moi qui ai raison et c'est mon Dieu comme ceci » ou « Ben non, en fait, c'est du polythéisme et c'est comme ça. » Non, c'est juste des modèles différents, en fait. Et donc, moi, ce que j'essaie de faire, là, c'est j'essaie de vous filer mon modèle, tout incomplet qu'il est, et avec des choses aussi qui... C'est ça aussi un modèle, il évolue. Il change constamment. Si vous écoutez mes discours d'il y a 10 ans, il y a des choses avec lesquelles je ne suis plus en accord. Pourquoi ? Pas parce que c'était faux. Parce que c'était juste pour moi, il y a 10 ans, c'était mon modèle et il fonctionnait pour ce dont j'avais besoin. Et puis maintenant, mon modèle a évolué, tout comme le modèle scientifique ne cesse pas de changer là, depuis des milliers d'années. Et c'est ça, en fait. Un modèle va toujours être appelé à changer. Il n'y en a pas un jour un, on croyait ça au niveau scientifique, on croyait qu'un jour la science allait tout expliquer et que c'était bon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est quand j'étais petit ça. Quand j'avais, je ne sais pas, 15-20 ans, c'est déjà plus si petit, mais je me rappelle, qu'on pensait à un moment que la science allait pouvoir tout expliquer. C'est fini ça. Il n'y a plus aucun scientifique qui pense ça, que la science va pouvoir tout expliquer. Donc le but pour moi, un des buts dans la spiritualité, c'est de se construire un modèle qui est bien, qui va bien, qui fonctionne. Hein, une manière de voir la vie, une manière de se voir soi-même, qui nous permet de vraiment bien vivre, d'être des belles personnes, qui vivent en toute dignité et en harmonie. Une citation de Ernst Pauli, un physicien qui a eu le prix Nobel de la paix, le prix Nobel de physique, en 45. Le profane veut toujours dire, lorsqu'il dit réalité, qu'il parle de quelque chose qui va de soi. Alors qu'il me semble que la tâche la plus importante et extrêmement difficile de notre temps et de travailler à la construction d'une nouvelle idée de la réalité. Donc c'est ça, ils disent ce que j'essaie d'expliquer, c'est des idées de la réalité qu'on construit. Souvent on dit la carte n'est pas le territoire. On se fait une cartographie pour s'y retrouver, c'est ce que les humains font, une cartographie pour s'y retrouver, mais la carte n'est pas le territoire. Et c'est bon de savoir ça, c'est bon qu'en fait notre cartographie n'est qu'une cartographie, qu'il y en a d'autres, et aussi qu'il y a d'autres cartographies qui mènent ailleurs. Il y a d'autres cartographies de la même chose, mais il y a aussi d'autres cartographies qui mènent ailleurs, dans d'autres civilisations ou dans notre civilisation à d'autres époques. La cartographie pré-Descartes, la manière de concevoir le monde avant Descartes, était très différente. Et la révolution scientifique et le siècle des Lumières, l'industrialisation. Et donc on a des cartographies qui nous permettent de donner sens. Et certaines cartographies ont des... Toutes les cartographies, je pense, ont des beautés et des lacunes. Une citation de Nancy Houston dans son livre « L'espèce fabulatrice ». Tous les animaux constatent, enregistrent, réfléchissent. Leurs sens transmettent des informations lacunaires à leur cerveau, qui construit à partir d'elles l'image d'un monde complet. Cas à cas, ils en tirent des conclusions, ils se les communiquent, coopèrent, s'efforcent de survivre de leur mieux. J'aime bien en fait cette manière de voir comment on s'est fait notre cartographie. Nos sens nous transmettent des informations lacunaires, c'est-à-dire que nos sens ne perçoivent pas tout ce qui est là. Il y a des choix en fait implicites, c'est-à-dire qu'on ne sait pas en fait que notre cerveau fait des choix dans ce qui est perçu, que nos sens ne peuvent pas tout percevoir, que notre cerveau trie et n'interprète qu'une certaine partie. Et donc, en fait, ce qu'on perçoit, c'est très lacunaire. Donc, il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de manques. Et puis, en fonction de ce qu'on perçoit, on crée une image dont on a l'impression qu'elle est complète, parce qu'on n'a pas le pressentiment du manque. Et ça, je trouve, c'est une belle définition de ce qu'en Asie, dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, ils appellent l'ignorance, en fait. C'est cette croyance qu'on a que ce que nous percevons, c'est le tout. Presque cette impossibilité de pressentir que nous ne percevons pratiquement rien de tout ce qui existe, que nous ne percevons pratiquement rien et que le peu que nous percevons, nous l'interprétons avec notre imaginaire. Et de là, nous créons une forme de réalité que nous percevons. C'est énorme. Et du coup, cette ignorance, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est... elle est active dans le sens où on se base dessus pour construire notre vie. C'est obligatoire. On se base dessus et avec une espèce de sensation qu'elle est complète. Déjà un enfant, un petit enfant, 5-6 ans, vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez, il y aura toujours « je sais ». Mais je sais, je sais. Déjà, il croit qu'il sait tout. Ah, ça nous fait sourire, nous. On le voit, hein. C'est à peine faire ses lacets. On sait que la vie, c'est tellement complexe et qu'il y a encore tant de choses à venir. Et lui, il est déjà là, comme un petit caïd, à croire qu'il sait tout, quoi. Mais nous, toujours, on est toujours imbibés de ça, en fait. On vit comme si on savait. Alors au début, peut-être on a besoin de ça parce que on a besoin de faire confiance dans notre interprétation du monde, ça c'est absolument nécessaire. Mais je pense que le chemin spirituel nous amène à remettre en question le fait que c'est la seule interprétation, que c'est la bonne interprétation et que c'est une interprétation complète. D'où notamment... la nécessité de la question « qui suis-je ?», qui était donc une des choses qui a émergé à deux endroits dans le cercle de partage. La question « qui suis-je ?», qui est une question qui existe en fait dans toutes les grandes traditions spirituelles, je pense, mais qui est très forte, qui est au cœur en fait de l'Advaita en Inde, l'Advaita qui est le non-dualité, Advaita, non-duel, et qui est une tradition, en fait, dans laquelle la question « qui suis-je » est une question qu'on porte constamment. Ça fait partie du chemin spirituel. Donc la méditation va être très fort axée sur cette question « qui suis-je ?». Et cette question, en fait, c'est une question... à laquelle il ne faut pas répondre, comme souvent. Et ça, on a besoin de répondre, comme si on allait ajouter quelque chose à notre cartographie. Ça y est, ok, je suis ceci, je suis un être de lumière, ou je suis ceci, ou je suis cela. On va amener une réponse qu'on aime bien, et puis on va fermer la question en fait. Et l'idée de cette question, c'est de ne pas être fermée, c'est qu'elle soit tout le temps là. Et du coup, que par exemple en méditation, quand on observe, et ben du coup on se demande qui observe. Vous voyez, alors là, il y a le chant de l'oiseau, mais il y a aussi celui qui observe le chant de l'oiseau. Et il y a une espèce d'évidence de l'être qui émerge dans notre moment présent. Il y a autre chose que juste le chant de l'oiseau, il y a aussi la conscience, comme si la conscience prenait conscience d'elle-même. Donc la question « qui suis-je ?», elle nous pousse toujours à déconstruire ce qui s'est construit avec le temps. Tout ce qui s'est construit avec le temps, toutes les idées qu'on a à propos de nous-mêmes. Au début, elle fait toujours un peu bizarre cette question, si c'est, n'avait pas entendu ce genre de réflexion auparavant. C'est bizarre de dire qui suis-je. Hein, on pourrait passer, on serait presque mûr pour l'asile dans certains cercles, hein, qui sont très différents des nôtres. Si vous allez à gauche et à droite en disant qui suis-je, je ne sais pas vraiment qui je suis. Hein, vous savez, au travail, à votre patron, vous savez, patron, finalement, en fait, je ne sais pas vraiment qui je suis. Je me pose la question régulièrement. C'est applicable dans certains domaines et pas à d'autres endroits. À d'autres endroits, on a notre identité, on en a besoin et on l'utilise avec une grande légèreté. Et ça va très bien. Mais l'attachement, en fait, de nouveau, la croyance que cette identité construite est la totalité de ce qu'on est, c'est ça qui est problématique. C'est pas que cette identité en soi est problématique. C'est la croyance dans sa complétude, c'est la croyance que cette identité définit tout ce que je suis. Et ça, ça nie l'immensité de ce qu'on est en réalité. Et donc la question « qui suis-je ?», elle nous amène à remettre en question notre identité. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait très naturellement, pas quelque chose qu'on apprend à l'école, malheureusement. Encore que, je ne sais pas, je pense qu'il y a un âge aussi pour ça. Il y a la nécessité de construire une identité d'abord, une bonne identité, résiliente et sûre de soi. Et puis après ça, d'ouvrir la possibilité de voir que cette identité, qui fonctionne plus ou moins bien, il y a toujours mieux à faire, ça c'est le développement personnel, toujours moyen d'améliorer cette identité, mais qu'elle est relative, dépendante, changeante, et qu'elle ne définit pas la totalité de ce que nous sommes. Et donc la question « qui suis-je ?» nous permet de remettre en question cette identité, parce que sinon, peu à peu, elle devient envahissante, et se développe la croyance que ça, c'est la totalité de ce que je suis. Et c'est une pratique. C'est une pratique. Ceux d'entre vous qui entendent peuvent se mettre à pratiquer. Ça commence, je me rappelle quand j'ai entendu la première fois parler vraiment de ce questionnement, c'était pendant une retraite solitaire. Je ne comprenais pas la question. Je ne savais pas trop ce qu'il fallait en faire, en fait, de cette question. Qui suis-je? Qui suis-je? Comment est-ce que je pratique la question « qui suis-je » Ça veut dire quoi, en fait? Qu'est-ce que je fais? Mais en fait, on commence à y réfléchir. En fait, le but, c'est d'essayer de répondre et de voir si la réponse me définit complètement. Voilà, si par exemple je réponds « je suis Denis », ce n'est pas très satisfaisant, parce que je pourrais changer de prénom et la majorité de ce que je suis ne changerait pas. Donc Denis ne me définit pas, c'est juste le prénom qu'on me donne. Ce n'est pas qui je suis, ce n'est pas pareil. Si je dis « je suis enseignant de méditation », la majorité de ce que je suis, la plus grande partie de ce que je suis ne change pas si je change de métier. Donc ce n'est pas ça qui me définit, ça c'est ce que je fais, ce n'est pas qui je suis. Et peu à peu, comme ça, il y a moyen de chercher, en fait, et de ne jamais vraiment trouver. Et c'est ça qui est bien. Parce que ça nous pousse à chercher quelque chose, au final, qu'on ne va jamais vraiment trouver. Le jeu. Mais ça déconstruit. Ça déconstruit cette solidification qui s'est faite de notre identité, qui, elle, par contre, pose énormément de problèmes. Pas l'identité en elle-même, le fait que on ne vive que à travers elle. comme j'aime à le dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'amener toute notre identité pour aller s'asseoir dans le bois et regarder les arbres? On n'en a pas besoin. Mais on la ramène avec nous partout, et toutes les histoires qui vont avec, du coup. Et ça crée énormément de souffrance, ça crée énormément de tension. Ça crée une agitation constante de l'esprit, qui du coup n'est plus disponible pour percevoir ce qui est là, qui n'est plus disponible pour voir la beauté. Ça encombre énormément l'omniprésence de cette identité. Il y avait la question de la confiance aussi. Et la nécessité d'une certaine confiance, en fait, pour accepter de désolidifier l'unicité de cette identité, comme si elle était unique. D'accepter de se détacher de cette identité sur laquelle on a bossé depuis qu'on est tout petit. Et de la laisser de côté de temps en temps, de la laisser disparaître. C'est ce qui se passe en méditation parfois. Cette identité-là ne pointe pas son nez. Elle n'est nulle part dans nos pensées, elle n'est nulle part, notre mémoire ne la ramène pas, et du coup dans notre expérience, il n'y a pas cette identité. Mais il faut de la confiance pour ça. En fait, plus on a confiance, plus on va pouvoir laisser cette identité se déconstruire et se reconstruire, se déconstruire et se reconstruire, plutôt que de la ramener dès la première seconde du matin quand on se réveille jusqu'à la dernière minute du soir quand on se couche. Hein, parce que c'est ce qui se passe, en fait, on la voit revenir au réveil. Et bien, peu à peu, on peut avoir une certaine souplesse et ne pas en avoir tout le temps besoin, en fait, de cette identité. On a toujours la sensation d'exister, mais on n'a plus toutes les histoires qui vont avec. Ça, c'est aussi bien en méditation que après comme je le disais, quand on une balade en nature ou au petit matin quand on se réveille, on n'a pas forcément besoin de sauter tout de suite sur l'identité et de la ramener, de rallumer l'écran directement avec toutes les histoires qui sont passées hier, avant-hier et depuis notre naissance et toutes nos projections. Il faut une certaine confiance, en fait. Ce que je trouve édifiant avec la pratique spirituelle, la recherche spirituelle, le chemin, ce qui se passe en fait, c'est à force d'introspection, à force de réflexion, à force de lecture philosophique, d'écouter ce que les autres en disent, on connaît plus de choses, on comprend mieux. Mais plus on connaît et plus on comprend, plus on voit qu'en fait, ce qu'on connaît et ce qu'on comprend, c'est risible. C'est tellement parcellaire, tellement subjectif. Et en fait, c'est un peu, j'y pensais, comme en termes de musique, je me rappelle quand j'ai découvert les tablas en Inde. Les tablas, c'est des percussions. J'ai étudié les tablas pendant une dizaine d'années. Et la première fois que j'ai entendu des tablas, c'était au bord du Gange, avec un lever de pleine lune sur le Gange. Je venais d'arriver en Inde. Je venais de fumer un chilom avec un sadhu. Il y avait tout un tas de... J'étais avec... le sadhu, il était avec tout un tas d'éclopés. Et il y avait un aveugle avec ses tablas, qui est sorti ses tablas, qui a joué. Et là, waouh! C'était magnifique, magnifique. Ça faisait une semaine que j'étais en Inde, enfin il y avait tout le contexte aussi. Et ça avait l'air si simple. Je me suis dit, mais je vais apprendre ça moi. Ah, c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai étudié pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, ça avait déjà l'air beaucoup plus compliqué. Et ça semblait déjà beaucoup plus inatteignable. Ce que j'entendais, ce que je voyais. Et dans la pratique de la spiritualité, je pense que c'est pareil, en fait. Au fur et à mesure qu'on évolue, le mystère s'épaissit. Le mystère s'épaissit. Et en fait, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. C'est justement parce que c'est parce que c'est mystérieux que c'est trippant. C'est parce que c'est mystérieux que c'est beau. C'est parce que c'est mystérieux et incompréhensible, mais qu'on voit que ça fonctionne. Il y a un truc énorme qui se passe sous nos yeux constamment et on est conscient que c'est énorme. On est sensible à ça. C'est pas la notion de découvrir le mystère. Pour moi, je la comprends tout à fait différemment. Avant, je voyais découvrir le mystère, je voyais ça comme, vous savez, comme les statues qui vont être vues pour la première fois avec un grand voile dessus, et puis on enlève le voile et on découvre la statue, et là, on la voit. Découvrir le mystère, pour moi, c'est pas comprendre. C'est pas voir quelque chose et du coup le comprendre et savoir. C'est de plus en plus comprendre que c'est incompréhensible, qu'on ne sait pas. C'est de plus en plus en fait savoir qu'on ne sait pas. Et c'est avancer dans cette connaissance, c'est vraiment la connaissance la plus belle. C'est de vraiment savoir dans son expérience qu'en fait on n'y entrave rien du tout, qu'on ne sait pas. Tout en construisant un système philosophique, une cosmologie qui fonctionne bien, mais qui n'explique rien. Et la bienveillance, par exemple, les pratiques de bienveillance, de pardon et de bienveillance qu'on a fait, sincèrement, c'est magnifique. Sincèrement, ceux d'entre vous qui vont pratiquer ça et qui vont le pratiquer d'une façon régulière, ne serait-ce que pendant quelques semaines, vous verrez la différence, parce que ça reviendra, la bienveillance reviendra dans vos pensées. Vos directions s'éclairciront, c'était de la bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. À force de se poser la question, à force de se le souhaiter, de plus en plus, ça reviendra dans nos esprits et c'est la direction qu'on prendra. C'est magnifique, ça fonctionne, mais ça n'explique rien. C'est Emmanuel Kant qui disait « On mesure l'intelligence d'un homme à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter. » C'est beau. On mesure l'intelligence. Et l'intelligence, c'est pas d'en connaître de plus en plus. On mesure l'intelligence d'une personne à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter. De se sentir complètement à l'aise dans un monde qu'on n'est pas capable d'expliquer. De savoir qu'on n'est pas capable de l'expliquer. Mais si on n'a pas suffisamment confiance, à ce moment-là, on a besoin de tout expliquer. Et on a besoin que nos explications, elles soient comme si elles étaient solides et qu'elles expliquent tout. Et on va avoir aussi besoin qu'il y ait d'autres qui y croient à nos explications pour renforcer cette solidité. Là, c'est très problématique. Là, ça va créer beaucoup de tensions. Souvent, je disais à mon fils, quand il était plus petit et qu'il s'était coupé ou qu'il avait une blessure, je regardais la blessure, je lui disais, tu crois que ça va se réparer? Tu vas faire comment? Il dit, bah, je sais pas. Puis le lendemain, on regardait, oh, on dirait que ça se répare. Puis quelques jours après, bah, il n'y a plus rien. Bah, t'as fait comment? Oh, bah, je sais pas. C'est incroyable. Ça marche. Ça marche. Comment est-ce qu'on peut, rien qu'avec ça, ne pas avoir confiance? Ça marche. C'est intelligent. Et c'est pas moi avec mes connaissances, c'est pas ma maîtrise, c'est pas mon contrôle, c'est pas mon savoir. C'est pas quelque chose que j'ai appris. C'est pas quelque chose que je sais faire. C'est hyper intelligent. C'est tout le temps là. C'est hyper intelligent, c'est super mystérieux, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais on ne peut voir qu'une chose, c'est que ça fonctionne, c'est que ça répare, c'est que ça continue, c'est que ça vit. Et ça, c'est nous. À la méditation allongée, C'est un peu comme cette analogie que j'utilise parfois, qui vient aussi d'Asie. Je crois que c'est Sri Aurobindo, mais je ne suis pas sûr. Qui prend l'analogie du singe et du chien. Et il dit que le petit singe, il s'accroche sous le ventre de sa maman, et sa maman, elle saute d'arbre en arbre, ou d'immeuble en immeuble, quand on est à Benares ou à Delhi. Et alors que le petit chien, lui, sa maman le prend dans la mâchoire par la peau du cou, elle le transporte, et lui, il est tout détendu. Et pour le petit singe, en fait, c'est une analogie qu'on peut appliquer au chemin de la méditation. Dans la méditation, il y a une approche de la méditation dans laquelle je suis en contrôle. Je suis en contrôle de mon intention. Je pratique telle technique. Et dès que je vois que mon esprit est en dehors de la technique, je la ramène à cette technique. J'ai telle compréhension de ce qu'est la méditation, j'ai telle philosophie, j'ai telle pratique et je pratique cette pratique parce que je sais qu'elle est bonne pour moi. Là, à partir du moment où je lâche mon effort, en fait, je tombe en dehors de la pratique. Comme le petit singe, il tient le ventre de sa maman, mais ça dépend de lui qui reste, qui soit en sécurité. Tandis que le petit chien, lui, se laisse porter. Lui, il a des pattes comme ça, qui balancent. Il y en a aussi plein sur les ghâts à Bénarès, des petits chiens dans tous les états possibles et imaginables, et qui se font promener par leur maman, qui sont aussi dans tous les états possibles et imaginables. Mais le petit chien, il est complètement détendu. Là, en fait, ça ne dépend pas, absolument pas de lui qui tombe ou qui ne tombe pas. Il se laisse porter. Et cette analogie, en fait, c'est une analogie qu'on peut appliquer à la méditation, à une attitude de l'esprit. Une attitude de confiance ou une attitude de contrôle. Et n'allons pas trop vite. Ne disons pas que le contrôle, c'est mal et la confiance, c'est bien. On a besoin des deux. On a absolument besoin d'un équilibre entre les deux. Suffisamment de confiance, c'est-à-dire de laisser être et d'accepter ce qui est. Et suffisamment de capacité de contrôler notre esprit et de l'amener et de le laisser là où on a décidé qu'il devait rester. En fait, on a besoin de ces deux capacités. Et ce contrôle et cette confiance, en fait, c'est une danse. Entre les deux, notre vie est une danse entre les deux, contrôle et lâcher prise. Et je repense par exemple à la musique, il y a énormément de contrôle dans l'apprentissage de la musique, où on contrôle tout le temps notre esprit pour le laisser dans la pratique. Et après, jouer, c'est lâcher. C'est l'autre attitude. Et là, il faut la confiance. Et là, il faut complètement la confiance. Et en Inde, c'est un exemple qui m'a. C'est un peu mes racines, c'est de là que je. Partie de mes racines, c'est de là que je tire beaucoup de mes enseignements et de mes compréhensions. Et il y a un exemple auquel je reviens souvent, même pour moi, je me le rappelle tout le temps, c'est de voir les musiciens là, un musicien de haut niveau en Inde, c'est comme un dieu. C'est en tout cas. Quelqu'un qui peut être Dieu. Au moment où il joue, ça peut être Dieu qui joue à travers lui. Et quand j'ai vu des concerts avec des musiciens qui sont. Ça se sent en fait, quand ils sont sur scène, la musique classique indienne est faite pour être improvisée. Donc, il y a de l'espace. C'est pas composé. Il y a des compositions sur lesquelles en fait viennent les improvisations. Et puis le musicien va, par exemple, si c'est le sitar, qui est un instrument que j'aime vraiment énormément, ben, sur le dessus du sitar, il y a deux cordes, qui s'appellent les chitkari. Et le musicien va gratter ces deux cordes et il attend que ça vienne. Et puis il y a une phrase qui vient, il fait sa phrase, et hop, sa phrase s'arrête, et puis là, il attend. Et là, toujours, en fait, il faut s'imaginer le musicien qui est en concert, et il y a l'audience, il y a des journalistes, il y a des collègues qui jouent avant et après, qui sont dans les sièges rouges juste devant, et peut-être des gens d'une grande renommée, plus renommée qu'eux. Il y a énormément d'enjeux. Et là, ils sont sur scène, ils n'ont rien décrit, et ils grattent leurs deux cordes en attendant que ça vienne. Et là, tout est question de confiance. S'il n'a pas confiance, s'il a le moindre doute, alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller chercher dans sa mémoire ce qui pourrait bien jouer maintenant. Oh, telle phrase qu'il a déjà pratiquée dans sa pièce de répétition. Et hop, il enchaîne telle phrase. Et elle peut être magnifique et c'est beau. Mais quand il est vraiment dans cet état d'ouverture, et que là, il n'a pas peur, même s'il reste une minute, deux minutes, à juste gratter ses deux cordes, et déjà en soi, c'est très joli, en plus. Il reste une minute, deux minutes, et puis là, il vient quelque chose, mais là, tout le monde le sent. Tout le monde sent que ça ne vient pas du même endroit. Ça ne vient pas de la mémoire, là. Et là, il y a un cachet d'authenticité. Et les Indiens, ils le sentent. Ils sont vachement réceptifs. Et là, quand le concert est comme ça, après, ils se lèvent tous et ils crient « Hare Hare Mahadev ». Ah, ils crient les grands, au grand Dieu, gloire au Dieu. Là, le musicien, il a réussi à se laisser porter. Il n'a pas fait comme le petit singe, c'est pas lui qui s'est accroché. Il a pu lâcher. Alors je me demandais, en fait, comment elle vient, en fait, cette confiance ? Qu'est-ce qui favorise cette confiance ? C'est très certainement une question vaste et complexe, mais il y a différentes choses en fait qui me venaient à l'esprit. En fait, les choses qui me sont venues à l'esprit, les premières choses qui me sont venues à l'esprit, c'est de passer du temps en nature. C'est un peu enfoncer des portes ouvertes, mais en même temps, moi j'ai l'impression, pour moi en tout cas, que le temps que je passe en nature, ça reconstruit quelque chose, ça assouplit quelque chose et ça me donne énormément confiance. Je me disais aussi, le sommeil. Parce qu'on est là quand on entend, comment est-ce que je pourrais avoir plus de confiance ? Parce qu'on sent que c'est clé en fait. Comment est-ce que je pourrais avoir plus de confiance dans la vie ? Ce n'est pas en accumulant des connaissances forcément. Il viendra après à la connaissance. Mais c'est aussi des choses aussi bêtes que ça, d'être suffisamment reposé. Parce que quand on n'est pas reposé, comme on le disait, on est tout agité, on est comme des gamins turbulents, et on est dans un état de confusion, et rien ne se passe correctement. Comment est-ce qu'on pourrait vraiment incarner la confiance ? Quand on est dans cet état de confusion. Aussi, la manière de nourrir notre esprit. Qu'est-ce qu'on fait rentrer dans notre esprit ? Hein, parce que peu à peu, c'est ça qui devient notre réalité. Alors, qu'est-ce qu'on écoute ? Qu'est-ce qu'on regarde ? Qu'est-ce qu'on lit ? Avec quelle personne est-ce qu'on mène des discussions régulières ? Hein, tout ça, tout ce qui rentre dans notre esprit construit notre vision du monde. Certaines visions du monde vont être réconfortantes et d'autres visions du monde vont être noires. Il n'y en a pas une qui est juste et l'autre qui est fausse. Mais il y en a une qui construit de la souffrance et l'autre qui n'en construit pas. Donc il y en a une qui est utile et l'autre qui ne l'est pas. C'est pas juste ou pas juste. On n'est pas dans les questions de qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. C'est ce que je disais au début. On n'est pas en train d'expliquer la vie. On est en train de fabriquer un modèle qui fonctionne bien. Et en ne regardant par exemple que des choses violentes, en ne discutant que des choses violentes, en se faisant complètement absorber par le mainstream, les médias et toutes ces informations à chaud qui rebondissent tout le temps et qui racontent n'importe quoi, et ben en fait, peu à peu, ça construit notre vision de la réalité. Avec énormément d'insécurité, avec exactement l'antithèse de la confiance en fait. Alors que, en lisant des livres qui contiennent de la sagesse, et bien peu à peu, on va commencer à sentir que, on a une vision beaucoup plus moins réactive, plus profonde et beaucoup plus utile, qui nous est beaucoup plus utile. La méditation, pour moi aussi, apporte de la confiance parce que on fait l'expérience en méditation, parfois, de moments paisibles, de moments dans lesquels il se passe peu, et c'est des beaux moments. Et du coup, ça amène la confiance dans notre nature. Okay. Ça nous dit en fait, ça nous montre qu'il n'y a pas besoin tout le temps d'aller chercher des expériences particulières. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur de la satisfaction. Il existe une satisfaction qui ne repose pas sur le fait d'acquérir ou de devenir. Ça donne énormément confiance. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on crée, c'est quelque chose qui est là. C'est au contraire, c'est quand on arrête de créer tout un tas de choses qu'il y a ça, qui reste ça. Il reste une sensation de bien-être, de complétude. Il reste une sensation de ne rien manquer. Quand l'esprit ralentit, l'expérience qu'on fait est une expérience de... Il ne me manque rien. On ne pourrait rien rajouter pour que ce soit mieux. Il n'y a pas une envie de quelque chose de plus. Et pourtant, il n'y a rien. Il y a très peu d'identité, il y a très peu de soi, il n'y a pas de désir de quelque chose. Il y a une satisfaction qui est là, alors qui n'est pas une satisfaction de... C'est pas la même que quand j'ai réussi quelque chose et du coup j'ai cette satisfaction, ou j'ai fini un travail et du coup je suis satisfait, ou j'ai reçu un compliment et du coup je suis satisfait, ou je viens de m'offrir quelque chose et du coup je suis satisfait, j'ai accédé à un de mes désirs et du coup je suis satisfait. Là, c'est pas ça. Il n'y a rien. Ce n'est pas la satisfaction de se dire ah, enfin j'y arrive. Ça, c'est une vraie méditation. C'est pas ça. Il ne se dit pas ça. S'il se dit ça, la méditation, elle est finie. On sort en fait de cet état de satisfaction. C'est juste cet état de vide, de il ne se passe rien, est en lui-même satisfaisant. Alors là, on se dit, là, en fait, pas on se dit, mais on ressent une grande sécurité. On ressent ce qui se passe quand les choses s'arrêtent peu à peu. On peut apprendre à se permettre de moins essayer d'être tout le temps quelqu'un, de moins essayer de tout le temps paraître, de moins essayer de tout le temps réussir. On peut se permettre. Il y a quelque chose de simple, d'agréable et de complet. Dans ce discours, j'ai pris deux directions, qui sont deux directions qu'on a prises dans cette retraite. L'une est vraiment la direction de la confiance et qui permet de vraiment de s'abandonner quand on s'allonge pour méditer, de vraiment s'abandonner. Et l'autre est celle de la bienveillance. Et on peut avoir un regard sur ces deux directions en dehors de la salle de méditation, dans notre quotidien de la retraite, dans tous les moments de la retraite. La confiance va s'exprimer par la capacité de lâcher la pensée quand on est là dans la nature ou là à boire une tasse de tisane ou pendant le repas, à n'importe quel moment en fait, en dehors de la salle, plutôt que d'essayer de maintenir notre identité à travers le ressassement de ces pensées à propos de qui on est, de ce qu'on va faire, de ce qu'on est devenu, de ce qui ne va pas, de nos objectifs et tout ça. Oser lâcher tout ça. Oser lâcher encore et encore et encore et revenir à la pleine conscience de ce qui est juste là. La chaleur de la tasse de tisane, le son des oiseaux de nouveau qui nous accompagne partout, la beauté de la nature, quoi que ce soit qui se trouve là dans ce moment ou simplement notre respiration. Oser lâcher la construction incessante de notre identité à travers le ressassement de toutes nos émotions, de tous nos objectifs, de tous nos buts, de tous nos désirs, de tout ce qu'on voudrait atteindre. Ça, c'est la confiance. C'est la même confiance que celle qu'il faut pour s'allonger et méditer. Il nous faut bien sûr cette confiance-là aussi dans la position assise. Mais vraiment dans la position allongée, on l'incarne physiquement. Et la bienveillance, et c'est ce à quoi je voudrais vous inspirer, c'est de repérer dans les moments en dehors de la salle de méditation, ou bien peut-être pendant une méditation, de voir la manière dont vous vous parlez, de voir ce que vous vous dites, de vous assurer que c'est bienveillant. Et si ça ne l'est pas, de faire un petit sourire et de dire, d'essayer de trouver une tournure bienveillante, peut-être pour voir la même situation, parce que c'est souvent en fonction d'une situation. Par exemple, imaginons qu'on est là dans le groupe en train de se servir le repas, et là on renverse un peu de soupe à côté. Et il y a d'autres personnes près de nous. Et on peut vraiment se maltraiter, en fait. Et se traiter de maladroit, de même s'insulter, de con, de conne, qu'est-ce que tu fais? Et vraiment avoir... est-ce qu'il y a une autre manière de voir ce moment-là? De voir peut-être qu'on se sent vulnérable à ce moment-là, d'être vu dans une maladresse? Et du coup, de se rassurer comme si on était un petit enfant. Je veux dire, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Tu as le droit de faire des erreurs. Oui, ça, c'est juste un petit changement de perspective. Et d'essayer de jouer à ça. D'essayer, quand vous voyez en vous une voix maltraitante, d'essayer de la transformer en une voix bienveillante. Pour ça, il faut suffisamment de pleine conscience. Là, c'est une question de pleine conscience. Pleine conscience de la chaleur de la tasse de thé, pleine conscience de la respiration, pleine conscience du chant des oiseaux, pleine conscience de ce qui se dit dans notre esprit. Et quand on voit que ce qui se dit dans notre esprit est construit de la souffrance, à ce moment-là, on essaye d'amener une autre vision qui vient de notre sagesse, d'implanter une manière de voir plus récente que cette vieille manière de voir, parce que souvent c'est des anciennes manières de voir, hein, qui, en l'absence de notre regard, continuent à se perpétuer. Mais là, on essaye d'implanter une nouvelle manière de voir qui vient de notre sagesse, notre connaissance, notre compréhension. essayer d'implanter la pratique de la bienveillance dans des moments en dehors de la méditation. Ça peut aussi être dans des moments où vous vous sentez down, hein, puisqu'on a des ups and downs. Hein, tout le monde a des ups and downs. Quelqu'un n'a pas de up and down? Levez la main. Ok. Donc il y a des down. Et là, est-ce que ça vous dirait de tenter le coup de pratiquer la bienveillance? Je vous le conseille vis-à-vis de vous-même. Et vous pouvez même l'étendre, on le fera plus tard, peut-être aux autres participants. De leur souhaiter qu'ils aient une bonne retraite, qu'ils soient heureux, qu'ils aient un minimum de moments down, de leur souhait, ou en tout cas qu'ils soient pas trop down. Et puis voilà, de trouver des souhaits généreux et beaux pour les autres. Et soyez bien conscients de ce que ça vous fait de trouver des souhaits généreux et beaux pour les autres et pour vous-même. Est-ce que ça a du sens, c'est clair ce que je dis là? On pourrait mettre des grands panneaux dans les arbres. Pour s'en rappeler, hein. Qu'est-ce que t'as dit? Le plus dur, enfin peut-être pas le plus dur, mais une des choses les plus dures, c'est de s'en rappeler. C'est d'y penser. Mais essayez d'y penser au moment où il y a des coups de mou. Essayez d'y penser dans les moments où il y a un peu de maltraitance dans la tête, de dureté. À ce moment-là, ce n'est pas la pleine conscience de la tasse de thé qu'il faut. Ça peut aussi, hein. Mais c'est autre chose ici qui est proposé. C'est les deux axes de cette retraite. Confiance et lâcher la construction de l'identité d'un côté, et souhait de bienveillance de l'autre côté. Merci pour votre attention. Merci. Et un petit mot de la fin. Soutenu par l'association Dharma Nature, je fais le choix de proposer ces discours de façon libre et non commerciale. Si vous appréciez les écouter, s'ils vous sont utiles, pensez à nous soutenir de temps en temps avec un don que vous pouvez envoyer depuis le site www.dharmanature.org. Sachez qu'aucune somme n'est trop petite, car votre démarche exprime votre considération et ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée et une belle pratique.